Étudiants de l'Université Laval, une agence de publicité créative et bien plus encore. Puis en plus, on est parrainé par Cossette. Pour un petit plus dans vos projets, visitez notre site web au préambulecommunication.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Des nouveautés faites au Québec, ici, on en a des tonnes de copies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures, l'ALIE. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Du 19 avril au 7 mai, la compagnie de théâtre La Trallée produira la pièce Disgrâce. Et du 17 mai 2022 au 21 mai 2022, la compagnie de théâtre de l'Impie produira, elle, la pièce de théâtre performatif la nuit du 4 au 5. Un petit avertissement contenu, cette émission portera sur les violences à caractère sexuel. Nous souhaitons vous en avertir. Pour parler de ces deux pièces et les liens avec la campagne Sans oui, c'est non, je reçois plusieurs invités que je laisse se présenter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, c'est Franco Loge Ayoa. Je suis le secrétaire au droit étudiant de la Ligue.
Bonjour, moi, c'est Camille Lavoie-Rancourt. Je suis étudiante à la maîtrise en droit à l'Université Laval, puis mon sujet de maîtrise porte sur une justice alternative en matière d'agression sexuelle.
Bonjour, moi, c'est Nadia Girard-Edaya. Je suis une des 9 fondatrices de La Trallée, puis je suis aussi l'autrice de Disgrâce qu'on présente en ce moment en premier acte.
Bonjour, je m'appelle Aurélienne Massé. Je suis l'une des fondatrices du Théâtre d'Olympie et c'est moi qui ai la chance de mettre en scène La nuit du 4 au 5 de Rachel Gratton en mai à premier acte.
Bonjour, mon nom est Christine de la Roseville. Je suis coordonnatrice d'opération au Centre de prévention d'intervention en matière de harcèlement et au Centre d'intervention de prévention des violences à caractère sexuel. On s'occupe de la coordination de la campagne Sans oui, c'est non avec nos nombreux collaborateurs, dont l'Allier. Et cette émission de radio s'inscrit dans la campagne Sans oui, c'est non. C'est une de nos dernières activités de l'année. On est bien contents d'être là.
Justement, ça fait un beau petit... On l'a mentionné, ça fait un beau petit terrain pour parler justement de la campagne Sans oui, c'est non. Qu'est-ce que c'est cette campagne-là? Puis quel est le rôle de l'Allier dans sa promotion?
Alors, la campagne Sans oui, c'est non existe depuis 2016 sur le campus. L'objectif, c'est de faire la promotion d'une culture de respect du consentement sexuel, faire la promotion des services et donner des trucs pour agir en tant que témoin de violences à caractère sexuel. On a plusieurs collaborateurs, par exemple, le bureau de la vie étudiante, la direction des services aux étudiants. On a le PEPS avec nous. On a les ressources humaines, la CADEL, l'Allier. Là, c'est certain que j'en oublie, le service des résidents, le service de sécurité, prévention. Bref, c'est une campagne institutionnelle et à la base, elle a été créée par la mobilisation étudiante. Donc, la CADEL et l'Allier voulaient prendre part à ce mouvement de prévention des violences à caractère sexuel. L'Allier était un fier partenaire mobilisé depuis le tout début et on fait des activités ensemble qui rejoignent la population des étudiants au cycle supérieur, étudiantes au cycle supérieur, et on regarde ensemble qu'est-ce qui répond le mieux à vos besoins, à ce qui se passe chez vous, auprès des étudiants et étudiantes, qu'est-ce qui peut les rejoindre pour faire la prévention, promotion de la prévention des violences à caractère sexuel.
Merci beaucoup. Je pense que en fait, c'est une campagne qui est très importante pour l'Allier, parce que en fait, ça permet en fait, à l'Allier d'informer ses membres sur les violences en fait, à caractère sexuel, sur les comportements en fait, les plus décents qu'il faut avoir pour ne pas tomber dans le piège des violences à caractère sexuel. Et donc, c'est pour cela que en fait, nous sommes l'un des partenaires privilégiés du CIVAS et de CPIMH en fait, dans la lutte en fait, des violences à caractère sexuel sur notre campus universitaire. Et donc, quand la campagne démarre, on est bien sûr en, fait, en collaboration avec le CIVAS et le CPIMH. démarches et tout ce qui va avec, pour pouvoir en fait diffuser l'information sur notre site internet par le biais de notre attaché à la communication, Marie Duchesne, qui fait un travail en fait très impeccable en fait dans ce domaine-là et pour lequel je la remercie beaucoup. Et aussi en fait, quand on reçoit les étudiantes et étudiants, on leur dit en fait de suivre la formation obligatoire qui est sur le portail, qui parle en fait de la prévention des violences à caractère sexuel. Et donc l'allier en gros fait de l'accompagnement, fait de la sensibilisation et de l'information nécessaire pour les étudiantes et étudiantes et étudiants du Ouest de notre campus universitaire.
Et je le mentionne, puisqu'on a un nouveau comité exécutif, les exécutants et exécutantes de l'Allier vont faire aussi la formation sur les témoins actifs que nous offrent le CPI, MH et le CIPVAC pour justement être de meilleurs témoins de ces situations-là. Je vais tout de suite aller vers Camille. Quel est le lien entre ta maîtrise et les pièces qui sont proposées au théâtre Premier Acte et quels sont les thèmes qui sont présentés dans les deux pièces?
Ce qui est du lien, c'est qu'on adresse toutes les trois le thème des violences sexuelles, donc des inconduites sexuelles, puis comment les adresser ou comment est-ce que ma maîtrise, en fait, se veut une certaine de voies alternatives à la judiciarisation pour certains dossiers d'agression sexuelle, parce qu'on se rend compte de plus en plus avec la vague des dénonciations qui s'est abattue sur le Québec dans les dernières années, puis les critiques des victimes sur le système judiciaire, que cette voie-là ne répond pas aux demandes de toutes les victimes. Et je pense que c'est un peu le reflet de ce qu'on a aussi dans les deux pièces, que la voie judiciaire ne répond pas aux victimes, mais ne répond pas non plus peut-être des fois aux besoins que pourraient avoir certains accusés ou certains auteurs de violence. Fait qu'une déjudiciarisation pourrait être bénéfique des fois pour les deux parties pour réparer le tissu social qui s'est brisé, puis peut-être plus être réparatrice à la place que punitive comme voie.
Oui, alors nous, dans la nuit du 4 au 5, on aborde les thématiques du point de vue des victimes et des survivantes d'agressions à caractère sexuel. On suit le parcours de résilience d'une ou plusieurs victimes d'agressions à caractère sexuel, de l'agression juste en passant par l'hôpital, la constitution de la trousse médico-légale jusqu'à la déclaration à la police et jusqu'à un processus de résilience. Donc, on suit vraiment les victimes puis les conséquences de cette agression sexuelle-là sur les victimes, sur le corps des victimes puis sur leur parcours parce qu'on a une première agression sexuelle, mais il y a toutes ces micro-agressions qui vont suivre tout au long du parcours de la judiciarisation et du traitement de la plainte. Voilà.
Donc, dans Disgrâce, on est dans l'intimité plutôt de l'accusé. Donc, on suit un homme qui était donc une personnalité publique qui est pris dans un scandale sexuel puis contre qui certaines plaignantes vont porter plainte. Puis, on est dans cette période-là de l'attente entre l'accusation et le procès qui peut prendre jusqu'à un an. Puis, au lieu d'attendre le procès en prison, une de ses conditions, c'est d'être sous surveillance chez sa mère. Fait qu'on est la pièce, c'est ça, c'est ce huis clos-là entre la mère, le fils, puis avec l'avocate aussi qui vient préparer sa défense. Fait que ça porte, c'est pas une critique spécifique de la justice. On est vraiment plus dans l'intimité puis dans le relationnel de qu'est-ce qui crée des micro-formes de domination entre les gens. Mais quand même, ça pose cette question-là de quelle, comme Camille le disait, quelle issue il y a à ce processus-là, parce que ça met tout le monde un peu en guerre. Donc, tout le monde se braque puis on est vraiment pas, on est vraiment très loin là, du dialogue puis de l'échange.
Puis pour faire du pouce un peu sur ce que Nadia vient de dire, je trouve les thèmes de la pièce Disgrâce se mixent vraiment bien avec le sujet de ma maîtrise, puis les thèmes de la nuit du 4 au 5 aussi, parce que les visions, en fait, dans Disgrâce, c'est un peu plus évident dans le caractère le personnage de l'avocate auquel je me suis identifiée quand même, parce que vu mon futur métier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que du côté de Disgrâce, il y a le thème du féminisme qui s'exprime au travers de l'avocate dans un certain moment. Il y a un échange sur est-ce qu'on peut être féministe et aussi être avocate de la défense? Est-ce qu'on peut être féministe et mère d'une personne qui a été dénoncée comme auteur de violences sexuelles? C'est des thèmes qui sont très intéressants à aborder puis qui méritent de l'être, en fait.
C'est très intéressant de vous entendre. J'espère que que nos auditeurs iront voir les deux pièces de théâtre qui s'en viennent prochainement. On va faire une petite pause musicale avec une pièce de Mathieu Lubowski qui s'appelle « Vers la beauté ». Puis par après, on va continuer de parler de justement des violences à caractère sexuel et des pièces de théâtre, puis de tout que ce qui est aux alentours de ça. On vous revient à CHIS 94.3 FM. Musicale pour ceux et celles qui se joignent à nous, un petit avertissement de contenu. Cette émission portera sur les violences à caractère sexuel. Nous souhaitons vous en avertir. Si c'est un sujet qui est sensible, ce sera le sujet de l'émission. Donc, on reprend sur les pièces de théâtre, Disgrâce et La nuit du 4 au 5. Ça a été quoi la genèse du projet puis un peu les thèmes que vous avez abordés dans ces deux pièces-là?
Je peux commencer. Donc, nous, avec le Théâtre d'Olympie, on est une compagnie de théâtre performatif féministe. C'est dans notre mandat là, de faire des projets qui mettent en avant la parole des femmes. Donc, ça a toujours été une évidence. Quand on a eu accès au test de Rachel Graton, La nuit du 4 au 5, c'était pour nous vraiment une évidence qu'il fallait monter ce texte-là. Parce qu'il relate réellement le parcours des victimes d'agressions à caractère sexuel qui sont vraiment prises dans un tourbillon, qui sont à la fois victimes, mais à la fois témoins de leur agression, puis à la fois en même temps preuves. Donc ce corps qui ne leur appartient plus, qui est bousculé de place en place, qui doit subir des prélèvements, qui doit se souvenir alors que la mémoire est floue. Il n'y a pas beaucoup de place actuellement dans le système judiciaire pour les victimes puis ce qu'elles ressentent. Et donc, il y a ce double poids d'être une preuve et en même temps la victime. Donc, c'était important pour nous de monter cette pièce-là pour dire que le corps, l'esprit, ça se peut que lui, il reste à l'agression sexuelle puis qu'on lui demande des choses qu'on n'est pas en mesure de faire parce que le corps est traumatisés d'une façon ou d'une autre, puis que le système qui devrait être là pour accueillir les victimes, en ce moment, il est broie, puis on a à nouveau des agressions après agressions.
Pour Disgrâce, en fait, la tralée, on n'a pas un mandat qui est vraiment spécifique. On est 9 personnes à se partager la compagnie pour alléger les tâches administratives, vous savez, puis s'encourager dans la création. Fait que moi, c'est vraiment, je suis tombée sur cet article-là qui relatait les conditions de Gomeshi en attente de son procès, puis ça m'a vraiment fascinée parce que je pense qu'à travers toutes ces vagues de dénonciations là, on a tous été éprouvés de toutes sortes de façons. Puis j'ai voulu plonger dans ce qui nous liait aux accusés. Comment on fait quand on est mêlé à eux, quand on est attaché à eux, qu'est-ce qu'on est capable de voir, de reconnaître, qu'est-ce qu'on est capable de nommer. Fait que ce huis clos-là, je trouvais que ça mettait un peu la table à ça. Comment on arrive à s'admettre les choses puis à mettre une limite. Puis je voulais aussi travailler beaucoup, puis on l'a travaillé plus dans la mise en scène, à ces personnages-là qui sont ultra charismatiques, qui ont tellement de pouvoir sur nous, à qui on accorde tellement de place, puis sur lesquels on a des a priori immenses, puis que à qui on permet souvent très longtemps beaucoup, beaucoup de choses. Donc comment ça prend fin, cette chose-là, comment ça s'articule. Fait que voilà, c'est un peu la genèse.
J'aimerais peut-être vous entendre, est-ce qu'il y a des thèmes qui se sont recoupés justement dans vos deux pièces? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées qui se recoupent dans vos deux pièces à la tralée et à la compagnie de théâtre d'Olympie?
Ben, moi, j'ai pas vu encore La Nuit du 4 au 5, là, je l'ai lu. Je sais pas, Auréliane, si tu as vu Disgrâce déjà, mais c'est sûr, en tout cas, qu'il y avait vraiment un drôle d'addon qu'on soit programmé un spectacle après l'autre, parce qu'on prenait vraiment des points de vue différents sur la question, là, on rentrait dans l'intimité des deux camps, un peu, de cette chose-là. Fait que, il y a cette correspondance-là. Puis apparemment aussi, on a une scénographie, un espace qui est assez semblable, puis c'est encore plus un drôle de hasard.
Oui, tout à fait. Donc, on est vraiment sans le vouloir. On ne s'est pas consulté avant de chacune aller de l'avant avec nos projets, mais c'est un petit peu le pile et le face là, d'une même pièce, parce qu'il y a deux personnes dans une agression. Puis donc ça, je pense que ça veut permettre au spectateur, à la spectatrice qui regarde les deux pièces, peut-être de naviguer et de développer là son propre point de vue sur le traitement des agressions à caractère sexuel.
Ce qui est vraiment intéressant d'avoir lu les deux pièces aussi, je trouve, c'est que l'infraction d'agression sexuelle telle qu'elle est prévue par le code criminel est très, 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 très large. Pour faire changement avec l'infraction de viol qu'il y avait autrefois. Là, on ne fera pas un cours de droit là-dessus, mais j'ai l'impression que vos deux pièces abordent deux infractions sexuelles différentes complètement. Je pense notamment à La Nuit du 4 au 5. Je ne sais pas si tu veux en parler plus, Auréliane, mais je trouve que souvent revenait un peu l'imaginaire populaire, l'imaginaire collectif qu'on se crée de l'infraction d'agression sexuelle, qui est l'homme tapis dans l'ombre, qui attaque la jeune femme innocente ou qui n'a pas vu venir le crime ou qui aurait dû le voir selon la croyance populaire à cause qu'elle se promenait seule dans la nuit. Mais c'est un crime qui est totalement différent de l'enjeu et la dynamique de pouvoir qu'on a dans Disgrâce, où c'est plutôt quelqu'un qui est en position d'autorité, une vedette, qui, si on veut, abuse de cette position-là envers des personnes qu'il connaît ou qu'elle connaît, là, on s'entend, c'est il, là, qu'il connaît. Et que je me demandais si vous vouliez parler de ces distinctions-là entre ces deux pièces-là, puis qu'est-ce qui vous a poussé vers cette vision de l'infraction d'agression sexuelle plutôt qu'une autre.
Oui, tout à fait. Dans La Nuit du 4 au 5, là, de la façon dont l'autrice Rachel Graton l'a écrit, c'est une écriture qui est assez intelligente. Et en effet, il y a le fil rouge de cette agression sexuelle dite idéal, donc dans la nuit, par un inconnu, où il y a eu des témoins, où la police croit la victime, où tout se passe comme ce qui est prévu, qui se passe. On va à l'hôpital, on est reçu, on fait la trousse médico-légale, on est reçu, au final, on essaye que l'agresseur soit arrêté, qu'il y ait une suite à la plainte. Donc, il y a cette espèce de fil rouge qui nous permet de suivre le parcours de résilience d'une victime idéale, d'une agression idéale. Évidemment, on s'entend, c'est un gros guillemet, le terme idéal. Et à travers l'écriture, il y a toutes ces autres histoires, toutes ces micro-agressions, toutes celles qu'on n'a pas dites, toutes celles qui sont du quotidien, qui sont de l'intime, parce qu'on le sait, les agresseurs sont souvent, dans la majorité des cas, des personnes qui sont proches des victimes, leur conjoint, quelqu'un de leur famille, quelqu'un sur qui il y a du pouvoir. Donc, il y a ce fil rouge de l'idée qu'on s'en fait du film, réellement du film, qui est la réalité pour certaines victimes, ceci dit, puis qui est tout à fait légitime. Il y a aussi toute cette écriture de « Ah oui, c'est aussi ça une agression à caractère sexuel. C'est aussi ce moment-là où je n'ai pas consenti au sein de mon couple. C'est aussi là où je me suis fait toucher dans un transport. » Puis il y a tout ça qui est mêlé pour vraiment... c'est un texte, « La nuit du 4 au 5, puis comment le monde », qui nous permet là de... d'aller examiner en tant que société comme la culture du viol qu'on nourrit à chaque étape. Puis on légitimise les victimes, puis on les croit seulement si elles sont dans le petit cadre du fil rouge qu'on a déterminé. Sinon, tant pis pour toi. Donc, c'est ça qu'on va explorer. Je laisse la parole à Nadia.
Oui, moi, j'ai beaucoup voulu jouer dans les zones grises. J'ai voulu un peu même essayer de duper le spectateur. Là. C'est sûr que si je le dis là, je ne dupe plus personne, mais il y avait cette idée-là que le spectateur rentre puis soit séduit par l'accusé, qui rentre dans son argumentaire, qui rentre dans sa logique, dans sa vision des choses, puis qui se laisse un peu berner par les mécanismes qui se fait qu'on est dominé par les gens qui sont dominants. Puis, fait que toutes les descriptions d'événements, tout ça sont quand même gris, sont pas nets, ils sont là quand même pour voir c'est quoi la place du doute des gens sur ces choses-là. Puis, dans la structure, j'ai voulu que la parole des plaignantes arrive à la fin, parce que je trouve que c'est souvent avec les vagues de dénonciation, du moins c'est ce qu'on a vécu, ça commence par une plaignante qui ose prendre parole, puis après ça tout le monde parle par-dessus, puis noie ce qui a été dit, puis là le doute survient. Puis là j'ai voulu faire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans son univers, dans sa vision des choses, puis à la fin on entend la plaignante, puis en tout cas, j'espère que rendu là, c'est plus clair un peu la posture des choses là-dedans. Voilà.
Puis, quelles sont les limites du processus judiciaire que vous avez découvert avec la création de vos pièces? Est-ce que vous avez découvert des zones grises ou des choses qui ne faisaient pas sens pour vous?
Ben moi, j'avoue que pour écrire la pièce, j'ai lu beaucoup sur l'affaire Gomeshi, puis sur ce procès-là, comment ça s'est passé, puis comment les victimes ont toutes été vraiment facilement décrédibilisées. Puis j'avoue que j'étais pas particulièrement familière là avec toutes ces notions-là, mais de voir à quel point la défense a pas à donner sa version des faits, comment tout repose sur la crédibilité de la victime, comment c'est facile de semer le doute sur cette crédibilité-là. Fait que effectivement, ça donnait un peu l'impression là, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire.
Puis concernant la nuit du 4 au 5, je ne sais pas si on a découvert des limites, parce que malheureusement, il n'y a pas de coup de théâtre dans la nuit du 4 au 5. C'est juste la vérité, l'histoire malheureusement banale d'un grand nombre de victimes. Donc, on tombe pas de notre chaise à la fin en disant « Ah, c'est donc ça qui se passait ». Et c'est ça, et c'est des limites qu'en tant que femme, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on connaît. Cette idée de « est-ce que je vais être crue ? Est-ce que je vais être prise au sérieux ?» C'est à moi de me justifier. Exactement ce qu'a dit Nadia, à quel point ça va être facile, la crédibilité de la victime va être mise en cause. À quel point elle se dit « ah, mais peut-être que ce n'était pas une agression parce que j'avais pris un verre avant. » Mais dans le texte, Rachel dit ça, « j'étais pas saoule, mais comme correcte. » Est-ce que mon histoire est encore légitime? Est-ce que vous y croyez? Si je vous avoue que j'ai pris une bière avant, et donc il y a toute cette idée de la victime, elle se re-questionne tout le temps sur sa propre légitimité, puis on est toujours dans le doute, puis est-ce qu'elle l'a cherché? Est-ce qu'elle l'a pas cherché? C'est ce que nous donne à dire le texte. Nous, on prend pour postulat en tant que compagnie qu'on croit les victimes, quoi qu'il arrive, on est derrière elles, puis on espère que la pièce, ça contribue à exposer le fait que c'est complètement absurde ce qui se passe, puis que la victime se retrouve, dans certains cas, à la limite, à la place de l'accusée, celle qui se fait questionner qu'est-ce qu'elle faisait avant, comment elle était habillée, pourquoi elle était ici, alors que dans la plupart des cas, c'est absolument pas de sa faute ce qui arrive. Donc, c'est ça qu'on veut montrer là, sous notre loupe.
Moi, j'aurais une question pour Camille. Je sais pas si c'est possible. Oui. Parce que, donc, tu travailles sur ce projet de mémoire, là, sur un programme alternatif. Est-ce que tu as l'impression que la création du tribunal spécialisé là, qui est mis en place, c'est un pas qui va dans cette direction-là? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui peut arriver?
Il va vers une justice alternative. L'objectif du tribunal spécialisé n'est pas d'instaurer une justice alternative, mais de vraiment avoir des intervenants spécialisés en matière de violence sexuelle, donc des juges, des avocats, des procureurs qui sont spécialisés et qui ont reçu des formations, puis d'avoir un système institutionnel judiciaire qui permet aux victimes de moins vivre cet effet de revictimisation qu'elles ont au travers du processus. Donc, le tribunal spécialisé reste un tribunal, puis un tribunal, selon sa vocation actuelle, à tout le moins, ça a pour but de déterminer la culpabilité de l'accusé. Et donc, forcément, souvent, ça gravite autour de l'accusé et la victime aura quand même, le procureur aura quand même à faire la preuve. C'est pour ça que je trouve que la justice alternative pour certains dossiers peut être vraiment intéressante parce qu'elle a son centre de gravitationnel est complètement différent, puis il est possible de mettre la victime au centre de ce processus-là si elle le souhaite. C'est pas tous les dossiers, là, on parle de Gomichi, on parle de Roson, ça ne serait pas rendu en justice alternative, là, soyons clairs. Mais il y a certains dossiers qui, personnellement, je le crois, mériteraient de se rendre en justice alternative pour que la victime soit prise en charge au même titre que l'accusé. C'est ça qui est intéressant avec une justice qui serait réparatrice et réhabilitatrice. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec les pièces, c'est que ça montre en fait les lacunes du système, si l'on veut, le système qui, pour certaines victimes, ne répond pas à leurs attentes. On le sait, là, les victimes, ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur dise « oui, c'est arrivé », qu'on admette la responsabilité, puis que ça ne réarrive plus à d'autres femmes. La plupart, là, je généralise en gros, parce qu'il y a autant d'attentes de victimes qu'il y a de victimes. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Puis je trouve que vos deux pièces mises ensemble, si les spectateurs et spectatrices vont les voir l'une après l'autre, ça permet de dresser un portrait global des lacunes, comment le système dessert certaines fois tant les accusés que les victimes. C'est intéressant.
Je pense que pour terminer, ça nous permet de vraiment voir les deux pièces ensemble. Puis moi, la dernière question que je souhaiterais vous poser à tout le monde, c'est quel est l'impact souhaité par le biais de ces œuvres ou quel message vous voulez laisser aux spectateurs?
Une bonne question. J'ai l'impression que nous, comme toujours, ce qu'on veut laisser comme message avec l'art, c'est pas Nadia, peut-être que tu vas me contredire, c'est d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir une place pour qu'on en parle de ces sujets qui sont tabous. Parce qu'en parlant, que ça soit en montrant l'un ou l'autre côté de la pièce, ce qu'on fait, c'est qu'on brise le silence, on brise le tabou. Et là, on reprend le pouvoir sur nos histoires collectives. Parce que la honte, elle change de camp. Puis ensemble, peut-être si la nuit, ça permet à une victime de se sentir moins seule ou une personne de se dire « Ah, peut-être que ce que j'ai vécu, c'était légitime, puis j'ai le droit de me sentir comme ça », ça va être déjà un grand succès. Puis j'incite les spectateurs, les auditeurs, en fait, à aller voir Disgrâce et à aller voir la nuit, juste pour se dire... Parce qu'on se dit tout le temps « Ah, mais l'histoire à deux côtés, l'agresseur, on n'a jamais son... Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis là, je pense que c'est une façon d'avoir accès à... Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête d'un accusé et qu'est-ce qui se passe dans la réalité d'une victime?
Oui, effectivement, les questions, tu le disais, Auréane, moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de... Puis le théâtre se nourrit souvent là, de vide. On peut laisser beaucoup d'espace. Puis je pense que dans Disgrâce, on a essayé de laisser beaucoup d'espace, de beaucoup de questions en suspens pour que justement les spectateurs soient renvoyés à eux-mêmes puis qu'ils questionnent leurs propres a priori puis leur propre rapport à la violence puis leur propre façon de vivre leurs limites. Voilà, je pense que j'espère en tout cas que ça les plonge un peu dans le trouble de toutes ces questions-là.
Si je peux peut-être ajouter une chose, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé des deux pièces, c'est qu'elles jouent avec les nuances. Il y a énormément de nuances en contexte de violence sexuelle, puis je pense que les deux pièces ont fait du beau travail de les représenter, parce que je trouve que les violences sexuelles, on en parle, mais que c'est important d'en parler avec toutes les nuances qu'elles ont, puis les différences qu'elles peuvent avoir, puis de pas tomber trop facilement dans un réflexe punitif qui est déjà bien... Ben là, je me fais l'avocate de ma propre thèse, mais qui est déjà bien ancrée.
Franco-Christian, est-ce que vous avez des derniers mots, vous, de votre côté, sur l'impact que vous pensez que les pièces vont avoir sur nos auditeurs et nos spectateurs?
Ben moi, je suis vraiment contente que ces pièces-là vont être... offerte et puis que ça ouvre justement de sensibiliser les gens à la réalité des personnes. Souvent, les gens vont porter une opinion à distance, justement, comme Auréliane disait, là, sur l'agression typique présentée dans les films. Là. C'est vraiment dans l'intimité que ça se passe, les violences sexuelles, ça se passe dans la manipulation, dans l'abus de pouvoir, comme le décrivait Nadia. Donc, d'être sensibilisé à ça, puis de reconnaître que quand ça arrive, ça brise, oui, la vie de la victime, mais ça va avoir un impact aussi sur tout l'entourage, sur plusieurs aspects. Là. C'est vraiment... je trouve que ces pièces-là vont couvrir large puis vont présenter une belle réalité. Donc, il y a plein de messages, je suis certaine, qui vont être retenus de ces pièces.
Moi, je tiens simplement d'abord à dire bravo pour ces pièces-là qui, selon moi, je ne les ai pas encore lues, mais à la description du contenu, je pense qu'elles sont toutes intéressantes et ça permettra en fait de sensibiliser, d'informer encore plus notre campus universitaire et notre communauté de l'Ouest universitaire sur en fait les violences à caractère sexuel. Et ce que je trouve en définitive, comme l'a dit tantôt Auréliane, je pense que ça va permettre d'ouvrir vraiment le dialogue. Tout le monde pourra maintenant prendre la parole et dire au moindre geste quand il sera en fait pris dans un panneau en fait d'agression sexuelle qui pourra prendre la parole en fait pour s'ouvrir. Donc ça va vraiment permettre, ça va vraiment faire à soi du moins le dialogue au sein de notre communauté universitaire. Voilà, merci beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup pour cette émission à vous cinq. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est sur ce que se clôt cette émission de Questions de savoir. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Bien, merci de nous avoir reçus.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était la dernière de la saison pour Questions de savoir. Suivez la page Facebook de l'Allier pour être au courant de nos actualités, incluant un tout nouvel épisode de notre série de vulgarisation Néo.